Il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, les tensions Iran-USA.
Oui, tensions qui se sont accrues depuis ce week-end dans le golfe arabo-persique avec 4 navires commerciaux endommagés par des projectiles inconnus. Sabotage, disent les Saoudiens. Ceci alors que les frictions entre Téhéran et Washington atteignent en effet un degré inédit depuis un an. Préparatifs militaires, risque de blocage du détroit d'Ormuz. Alors est-on en train de passer de la guerre psychologique au conflit géopolitique? On voit ça avec vous, Clément Terme. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone ce matin depuis Bahreïn. Vous êtes chercheur sur l'Iran à l'Institut d'études stratégiques, IISS. Alors, des bruits de bottes, bien sûr, et aussi des sons de cloche contradictoires autour du détroit d'Ormuz. Les États-Unis invoquent la menace d'une attaque iranienne. Les états-majors de la coalition en Irak se contredisent publiquement. Et puis hier, Pompeo et le guide suprême Khamenei demandent tous les deux vouloir la guerre. Qu'est-ce qui se passe, selon vous? C'est encore un jeu d'intimidation ou une confusion diplomatique?
Oui, je pense que c'est les deux à la fois. D'abord, c'est la conséquence de la nouvelle politique iranienne de l'administration Trump et le retour au statu quo hanté de l'administration Bush, puisque à l'époque, entre 2000 et 2008, il y avait déjà ces tensions. Et en Irak, vous avez parlé de la confusion actuelle, c'est parce qu'en fait, la mission qui a été donnée à la coalition internationale de la lutte contre Daesh est effectivement de lutter contre Daesh, l'État islamique, et n'est pas de contrer l'Iran. Donc les États-Unis essayent, depuis quelques mois, quelques semaines, surtout, de changer cette mission militaire de la force internationale présente en Irak et de faire évoluer son mandat de la lutte contre Daesh vers la lutte contre l'Iran. Et là, il y a un désaccord international et on voit cette division, si vous voulez. Donc les États-Unis ont toujours ce pouvoir d'entraînement au niveau des sanctions économiques, mais sur le plan politique et militaire, ils apparaissent aujourd'hui plus isolés dans leur agenda d'escalade contre l'Iran.
Oui, alors il faut peut-être situer où on se trouve. Donc ce détroit d'Ormuz, une bande d'une quarantaine, soixantaine de kilomètres entre le golfe Oman nommément et puis l'Iran, donc où passe 35% du trafic pétrolier mondial. Vous évoquiez 2008, c'est vrai que quand même, on n'avait pas eu une situation aussi tendue depuis cette époque, ou 2012, à l'époque où il y avait eu de nouvelles sanctions aussi.
Oui, à l'époque de Bush, il y avait toujours ces menaces de guerre psychologique. À l'époque, on parlait de l'option militaire. Donc c'était encore plus clair qu'aujourd'hui, si vous voulez, puisqu'aujourd'hui, il y a des, comme vous l'avez dit, les deux côtés nient cet appétit pour le conflit militaire. À l'époque de Bush, on était dans l'après-guerre d'Afghanistan et surtout de guerre d'Irak. Et à l'époque, les néoconservateurs, au moins jusqu'en 2005, étaient très puissants à Washington. Ce qui fait peur aujourd'hui, c'est le retour en fait de John Bolton, qui avait été évincé justement en 2005, puisque l'administration Bush avait changé son fusil d'épaule et avait décidé de devenir plus réaliste et avait débuté finalement des négociations directes avec l'Iran, qui s'était concrétisé à l'époque du président Obama. Maintenant, ce retour en arrière crée une situation tendue, un climat, une atmosphère de tension dans la région, et qui n'était plus ce qui n'était plus le cas parce qu'Obama avait décidé de négocier avec l'Iran et de faire baisser les tensions. Et c'est lié aussi au fait qu'Obama s'était focalisé sur le programme nucléaire de l'Iran, alors que l'administration Trump se focalise sur la question de la politique régionale. Mais donc ce changement de focus de la politique étrangère américaine est à l'origine des tensions actuelles.
Oui, et vous soulignez l'action de John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale, qui a eu, c'est vrai, le discours et les discours les plus martiaux récemment. C'était lui qui parlait de signaux clairs et récents montrant que les forces iraniennes et leurs affidés, dit-il, font des préparatifs à une attaque possible contre les forces américaines. Il y a eu cet épisode des sabotages, disent les Saoudiens, là, de leurs navires, hein, des tankers, un cargo norvégien, un cargo des Émirats Arabes Unis. On a une seule image, je crois, de dégâts au-dessus de la ligne de flottaison d'un des bateaux. Est-ce qu'il y a plus d'informations sur cet épisode ?
Non, pas du tout. En fait, on est dans une guerre de l'information, hein, au niveau du Golfe. Donc il y a déjà les deux récits, donc celui qui vient d'Iran et puis celui qui vient des pays du Golfe. Et ensuite, au sein des pays du Golfe, il y a une division entre les pays qui ont une ligne très dure contre l'Iran. Donc il s'agit d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, du Bahreïn et de l'Arabie Saoudite notamment, et des pays plus qui ont des positions plus équilibrées comme le Koweït ou le Sultanat d'Oman. Donc il n'y a pas d'unanimité non plus, et le Qatar. qui est aujourd'hui mise au ban par le quartet, donc des quatre autres pays du Golfe. Donc il n'y a pas d'unanimité sur la perception, entre guillemets, d'une menace iranienne dans le Golfe, au sein même de ces pays du Golfe. Et donc c'est très difficile pour l'administration Trump, si vous voulez, au niveau local, régional, de construire ce qu'ils appellent l'OTAN arabe et de développer une force arabe anti-iranienne pour se désengager des conflits. D'où les contradictions, si vous voulez, dans la politique extérieure américaine, entre cette idée d'un retrait des États-Unis de la région, sur lequel a été élu le président Trump, et l'agenda militariste de John Bolton. Donc il va falloir voir comment ces contradictions vont se résoudre à Washington.
Et alors, précisément, comment est-ce que vous analysez parallèlement ce mouvement militariste de John Bolton, dont certains analystes aux États-Unis disent qu'il est en train, je cite là une analyse de Atlantic Council, de fabriquer une crise de toutes pièces, et puis parallèlement, cette annonce de retrait de Téhéran, la suspension de ses engagements du traité nucléaire, si une solution n'est pas trouvée à ses ennuis financiers d'ici 2 mois, ça veut dire que la stratégie de Trump est mise en échec, là, cette pression par le retrait ?
En fait, c'est surtout pour l'Iran le moyen de convaincre les autres partenaires de l'accord sur le nucléaire de la nécessité d'avoir l'Iran à l'intérieur et de remplir leur part du contrat. Donc l'Iran, à travers ce mouvement, vise surtout la Chine et la Russie, qui sont les partenaires les plus conciliants, disons, sur le plan politique et qui soutiennent le plus l'accord sur le nucléaire. Et ensuite, l'Europe, qui est prise entre deux feux, entre son alliance avec les États-Unis, sa participation, par exemple, à la coalition militaire en Irak, et d'un autre côté, sa parole qui a été donnée à l'Iran sur l'accord sur le nucléaire et que l'Europe essaye de respecter, mais qui ne le peut pas vraiment sur le plan économique. Donc l'Iran essaye de responsabiliser les autres partenaires de l'accord sur le nucléaire pour justement éviter de se retrouver complètement isolé. Parce que si l'Iran se retire complètement de l'accord sur le nucléaire et donc va jusqu'au bout de ses propres menaces et de son propre ultimatum, l'Iran aura non seulement les États-Unis contre lui, mais aussi l'Europe et dans une moindre mesure la Russie et la Chine.
Donc comment est-ce que vous le voyez aujourd'hui, cette décision iranienne ? Est-ce que Téhéran, disons, est en train de reprendre la main ou est-ce que c'est un appel du pied un peu pressant, notamment aux Européens, de la part de Téhéran, sous pression économique ?
C'est surtout une question de politique interne, parce que Rouhani est très affaibli à l'intérieur. Tous les présidents, lors de leur second mandat en Iran, sont très affaiblis par rapport au guide et aux institutions non élues de la théocratie de la République islamique. Mais en même temps, la population aussi attend les dividendes économiques de l'accord nucléaire qui ne sont jamais venus. Donc il est très difficile pour les autorités de la République islamique d'assurer, si vous voulez, le service après-vente de l'accord nucléaire sans rien faire, parce que les promesses qui ont été faite à la population de développement économique ont généré une déception immense. Donc déjà que le régime a une faible légitimité et contesté par rapport à la question des droits des femmes, les droits des minorités en Iran et toute une série de questions liées à la démocratisation du pays, ils doivent, sur le plan économique, obtenir des résultats. Donc si vous voulez, le nouveau contexte international crée un problème pour les autorités de la République islamique et ce mouvement tactique sur l'accord sur le nucléaire est un moyen d'essayer de récupérer notamment les ventes de pétrole qui se sont effondrées avec la fin des exemptions américaines pour les 8 pays qui étaient autorisés encore à importer du pétrole.
Oui, c'est ça, avec donc cette impossibilité de vendre le pétrole, une récession prévue à 3,6% pour l'année 2019. Vous évoquiez Rouhani isolé, c'est vrai qu'on a pu lire dans l'AFP que son frère a été emprisonné alors qu'il avait joué un rôle important dans la négociation du traité sur le nucléaire, qui a un ultra-conservateur à la tête du système judiciaire. Ça veut dire que finalement le régime est réellement en train de se durcir alors sous l'effet des pressions.
Oui, en fait, le régime va vers plus de répression avec l'accroissement des tensions à l'extérieur. Il faut se rappeler qu'à l'époque de Bush, le président en Iran, en tout cas après quelques années de Bush, était Ahmadinejad, qui était un ultra-conservateur. Donc on s'attend, si vous voulez, à ce que la poussée néo-conservatrice qui a cours en ce moment aux États-Unis conduise à l'élection d'un néo-conservateur iranien également et aboutisse à un durcissement des tensions entre l'Iran et les États-Unis sur le plan politique. Mais je pense que les deux systèmes ont intérêt à une paix froide, parce qu'une escalade ne sert ni les intérêts de Trump, qui a une élection l'année prochaine et qui a été élu justement sur la poursuite de l'agenda d'Obama, finalement de retrait des États-Unis des interventions militaires extérieures. Et en Iran, vu que la population demande une amélioration de la situation économique, parce que la récession va être de 6%, voire plus pour cette année, en raison des nouvelles sanctions américaines, selon le FMI. Donc il y a vraiment cette crise économique qui prédomine et qui est en tête des priorités de l'agenda de la population iranienne. Et je pense qu'aucune des opinions publiques, ni dans le Golfe d'ailleurs, dans les autres pays du Golfe, ne souhaite une escalade militaire.
Bon, mais à voir si effectivement ce fameux véhicule spécial européen suffira à aider Téhéran sur le plan économique, et puis si les Européens arriveront aussi à faire pression d'une manière ou d'une autre. En tout cas, merci beaucoup pour vos explications depuis Bahreïn ce matin, Clément Terme. Je le rappelle, vous êtes chercheur sur l'Iran à l'Institut d'études stratégiques IISS. Merci et bonne journée.